pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, c'est un endroit exceptionnel, on dirait presque une autre planète. Le site hydrothermal de Dalol est situé au fin fond du rift africain, dans le nord de l'Éthiopie. Aridité, température, salinité, acidité, il réunit les conditions les plus extrêmes sur Terre. En janvier dernier, pour la première fois, une équipe internationale de scientifiques est venue l'explorer et a découvert qu'il abritait des micro-organismes exceptionnels. Une raison de plus pour lancer une campagne de protection de ce site, menacé aujourd'hui par des projets d'exploitation de potasse à grande échelle. Nous en parlons avec nos invités tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission.
C'est pas du vent sur RFI.
Ils structurent nos paysages, fondent nos mythes et nos activités. Les grands fleuves du monde nous fascinent, mais malheureusement pas assez pour que nous les respections. Bonjour Franck Vogel.
Bonjour.
Vous êtes agronome de formation, vous êtes devenu photographe pour la presse internationale spécialisée dans les sujets sociétaux et environnementaux. Nous vous avions reçu il y a quelques temps pour votre très beau travail sur les Bishnois. C'est un peuple indien qui vit dans le Rajasthan et qui depuis le 15e siècle vit en harmonie avec la nature. Mais depuis 2012, vous travaillez sur les tensions liées à l'accès à l'eau sur les fleuves transfrontaliers avec le projet Fleuve Frontières. Ça donne une exposition à Paris là, qui a démarré il y a quelques jours et qui sera donc visible jusqu'à fin décembre. Colorado, le fleuve qui n'atteint plus la mer, nous allons y revenir. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce projet Fleuve Frontières ?
Alors, c'est un projet qui a commencé, donc, comme vous le disiez, en 2012, suite à une rencontre avec le président de Green Cross.
En fait, Green Cross International, c'est l'ONG fondée par Mireille Grand-Bachère.
Exactement, voilà. Et dont j'ai été nommé ambassadeur c'était après les Bishnois, en fait. Donc, c'était 2010 ou 2011, je ne sais plus exactement. Et donc, à un moment, on discute de l'eau et de tout ça. Et me parle de ce projet de grand barrage en Éthiopie, sur le Nil. Ils avaient déjà un peu travaillé sur le sujet. Et ils me donnent des informations. Et je me dis, il y a un truc à faire. Et ils me disent, est-ce que ça t'intéresse ? Et je dis, ouais. Moi, vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresserait de couvrir et de creuser un peu. Et donc, j'y suis allé donc, en 2012, d'abord en Éthiopie. Après, je suis allé un mois au Sud-Soudan et après un mois en Égypte. Et c'était après le premier tour, en fait, des élections présidentielles en Égypte.
Alors, ce barrage, c'est donc le barrage que l'on appelle aussi Grande Renaissance, qui sera en 2017 le plus imposant de tous les barrages hydroélectriques d'Afrique. Une puissance de 6000 mégawatts, trois fois la puissance du barrage d'Assouan, c'est énorme. Ouais. Et l'objectif, c'est évidemment pour l'Éthiopie d'exporter de l'électricité chez les voisins, puis aussi d'irriguer les terres qui le sont assez peu dans la zone. Vous avez poursuivi avec le Brahmapoutre entre l'Inde et la Chine en 2013, puis le Colorado, le Jourdain en 2015. Notre lien avec les fleuves est très particulier. J'imagine que c'est pour ça aussi que vous avez eu envie de faire ces photos. Je vous propose d'écouter ce qu'en pense l'économiste et romancier Eric Orsena. Il est président de l'Observatoire international des fleuves créé par la Compagnie nationale du Rhône.
Un fleuve, c'est une unité, d'une part, et c'est un trésor. Et notre idée, c'est qu'on peut mieux valoriser ce trésor. Et justement, en ayant une conception à la fois globale de chaque fleuve, original de chaque fleuve, parce qu'aucun fleuve ne se ressemble. Je suis romancier, donc évidemment, j'ai envie de raconter chaque histoire. Mais j'ai aussi envie, en tant qu'économiste mais engagé dans la vie de la société, de dire que si on pouvait mieux gérer les fleuves, ça irait mieux pour la planète et plus directement, ça irait mieux pour les populations qui entourent les fleuves. Si vous développez le transport fluvial, vous remplacez 200 camions par une barge. Si vous avez plus d'énergie renouvelable, ça diminue l'effet de serre. Le fleuve tisse, le fleuve rassemble. Parmi les plus grandes civilisations, elles sont nées au bord des fleuves. Parce que le fleuve, c'est la vie. Donc, il faut écouter ce que nous racontent les fleuves. Et essayer à la fois de tirer notre part pour nous humains, mais en même temps d'écouter ce que dit la nature.
Franck Vogel, vous partagez cette vision d'Eric Orsena ?
Oui, complètement. Je suis complètement d'accord avec lui. Et d'ailleurs, j'aimerais bien le rencontrer pour en discuter
On essaiera de vous organiser voilà. Alors, mais le problème, c'est que quand même, nous avons plus façonné les fleuves selon nos besoins, pour reprendre ces propos, que nous n'avons laissé leur nature s'exprimer.
Oui. Le seul fleuve vraiment qui n'a pas été touché par l'homme, c'est le Brahmapoutre. Enfin, dans la partie indienne, pas dans la partie chinoise. Il y a plusieurs barrages qui ont été construits, mais partie indienne pour le moment. Mais il y a des barrages en projet, enfin, qui ont déjà commencé à être construits. Et là, c'est une autre problématique. En fait, c'est vraiment l'Inde qui a besoin de développer aussi son énergie hydroélectrique. Et en fait, l'Arunachal Pradesh, la zone, c'est un état indien qui était, c'est un état tribal à la base, et qui est ouvert au reste du monde que depuis quelques années. Et c'est un état disputé. Enfin, sur une carte internationale, il y a des pointillés autour. Donc, en gros, il appartient officiellement à l'Inde, mais la Chine le réclame depuis très longtemps et il y a toujours des incursions de l'armée chinoise. Là, voilà. Donc, en fait, il y a plus, enfin, dans cet état, il y a plus d'armées que de locaux. Et un autre point, c'est qu'il y a énormément d'eau. Donc, c'est pas pour rien qu'ils se battent pour cet état-là. Et donc, l'Inde a prévu de faire plus de 150 barrages dans cet état. Et donc, il y aura forcément une destruction environnementale. Parce que les barrages, c'est bien. Mais forcément, pour faire un barrage, il faut créer des routes. Donc, il faut détruire des pans de forêt. Enfin, voilà. Et donc, il y a des activistes locaux qui se battent contre ça. Mais c'est très compliqué.
Ah oui, c'est très compliqué parce qu'il faut toujours essayer de préserver et le développement économique et l'environnement à la fois. Et c'est vrai que les fleuves sont un bon vecteur pour comprendre ce conflit qu'il y a souvent entre ces deux visions. On en parle juste après une pause musicale. I'd like to dedicate this song to little Junior Park. Cousin of mine is going on, but we'd like to kind of carry on in his name by saying, I don't know why I love you like I do. After all the changes that you put me through, used all my money and my cigarettes, and I haven't seen how to have you yet. I want to know, won't you tell me? C'est pas du vent sur RFI en compagnie aujourd'hui du photographe Franck Vogel pour son projet Fleuve Frontière sur les tensions liées à l'accès à l'eau sur les fleuves transfrontaliers. Le fleuve Saint-Laurent est un fleuve transfrontalier entre les États-Unis et le Canada. Son bassin hydrographique est l'un des plus grands du monde. Il représente plus de 25% des ressources mondiales d'eau douce de surface. Il dégage une puissance, comme de nombreux fleuves, qui entretient un mythe. Il peut prendre, comme on dit au Québec. Mais il prend trop, puisqu'il subit depuis longtemps déjà les assauts d'une industrialisation qui menace sa biodiversité. Comme nous l'explique Daniel Cyr, il est chercheur à l'Institut national de recherche scientifique de l'Institut Armand Frappier. Nous l'avons rencontré sur les rives du Saint-Laurent.
Dans les années 60, on rapportait que durant les périodes chaudes, des choses comme ça, il y avait beaucoup de mortalité de poissons, il y avait des rejets qui étaient quand même assez importants. Il n'y avait pas de traitement des eaux usées. Et donc, il y avait souvent de la mortalité assez importante dans le Saint-Laurent, dans la région de Montréal. Il y a une station d'opération qui a été construite dans l'est de la ville, donc à la pointe est de l'île de Montréal. Comme vous savez, Montréal, c'est une île. Et donc, tous les égouts des municipalités étaient acheminés à l'est de la ville, où là, il y a un traitement, une précipitation de la matière solide, mais la matière qui est liquide, qui n'est pas précipitée, elle est rejetée à Saint-Laurent à un seul endroit. Donc, c'est un avantage, mais aussi un désavantage, parce qu'on a une concentration beaucoup plus importante de polluants qui sont relâchés à un seul endroit dans le Saint-Laurent. Ça fait une concentration qui est très élevée. On parle du Grand Montréal, d'une région de 4 millions d'habitants. Donc, tous les égouts sont concentrés à un seul endroit et relâché en Saint-Laurent à cet seul endroit. Oui, mais nous, on avait trouvé que près d'un tiers des poissons qui était en aval du rejet de la station d'épuration de la ville de Montréal, démontrait une condition qui s'appelait l'intersexe, dans laquelle il y avait des ovules qui poussaient à l'intérieur des testicules. D'autres études ont démontré qu'au même endroit, c'était pas juste les poissons, mais qu'il y avait des bivalves qui montraient aussi des changements de sexe. Il y avait plus de femelles que de mâles, ou il y avait des changements de mâles en femelles. Dans les polluants, on retrouve beaucoup de produits qui peuvent agir comme des estrogènes, donc c'est l'hormone femelle, la stéroïde des femelles. Et ces hormones-là aussi, parce que c'est aussi des hormones qui viennent de l'urine des femmes, se rendent dans le Saint-Laurent et a des conséquences, a des effets sur la faune aquatique.
Alors, mon nom est Daniel Green, je suis co-président de la Société pour vaincre la pollution à Montréal. Alors, le fleuve, c'est un écosystème qui manque de protection. L'exemple du grand déversement de la ville de Montréal, qu'une grande ville nord-américaine comme Montréal se sente permise de déverser dans le fleuve, et n'eût été des médias et de la population et des pétitions, elle aurait fait ça sans même l'annoncer. C'est un mythe. On dit que le fleuve, à cause de son débit, ne peut pas être pollué, mais ce n'est pas vrai du tout. Il ne faut pas croire que le fleuve est protégé par la quantité d'eau qui passe dans le fleuve.
Et oui, Franck Vogel, c'est vrai que lorsqu'on regarde le fleuve Saint-Laurent ou plein d'autres fleuves que vous avez photographiés, il y a un tel débit qu'on se dit bon, « c'est pas grave, un peu de pollution, de toute façon, il va pouvoir la dégager plus loin, l'emmener jusqu'à la mer. » Et voilà, sauf que la pollution, elle reste sur les côtés.
Oui, en fait, c'est vraiment international. Moi, je l'ai vu sur le Nil, je l'ai vu sur quasiment tous les fleuves où on pense que on place les choses et ça repart. Sur le Nil, j'ai vu les gens qui jettent des carcasses d'animaux morts. Enfin, il y a de tout. Et les gens se baignent après dedans. Ils ne se rendent même pas compte qu'il est pollué. Fleuve poubelle, voilà. Mmh.
Et donc, vos prochaines expéditions, elles vont se focaliser sur le Mékong, l'Amazone et le Gange. Le Gange qui fait partie des fleuves les plus pollués du monde.
Ouais. Là, c'est vraiment lié à l'industrie de la tannerie, où il y a pas mal de métaux lourds qui sont rejetés et il n'y a aucun traitement, en fait.
Pourtant, il y en a des millions de gens qui font des ablutions dans ce fleuve sacré.
Oui. Et qui pensent qu'ils vont être sauvés par ce fleuve et au final, ça va plus les tuer qu'autre chose.
Et c'est ça, est-ce que c'est un type de paysage, le fleuve, qui en fait nous empêche de raisonner rationnellement? Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes, beaucoup de mythes. Mmh. Et puis à côté de ça, on ne voit pas la réalité, de, par exemple, de la pollution.
Oui, souvent quand on est sur un fleuve sacré, j'ai fait le Jourdain aussi, c'était la même chose. La partie où il y a eu des ablutions, enfin, le baptême de Jésus a eu lieu côté jordanien, mais bon, il y a aussi la partie israélienne, mais là, cette partie-là, elle est totalement polluée. En fait, il y a des égouts israéliens qui se déversent un peu plus haut, et les gens font des ablutions là-dedans. Il y a des salmonelles, il y a des échiracolis, enfin, tout ce qui est un peu excrément, quoi. Alors, pour eux, c'est sacré et donc il n'y a rien qui peut se passer, mais je suis sûr qu'ils vont avoir des petites maladies de peau, ça ne va pas être très grave. Là, on n'est pas dans un cas très grave, le Gange, c'est un peu plus grave, mais quand même, quoi.
Alors arrêtons-nous un moment sur le cas du Colorado, hein, puisqu'on le disait tout à l'heure, jusqu'à fin décembre, les Parisiens ou ceux qui passent par Paris peuvent aller voir au pavillon de l'eau cette très belle exposition intitulée « Le Colorado, ce fleuve qui n'atteint plus la mer ». C'est l'artère vitale du sud-ouest américain, le Colorado.
Oui, complètement. C'est ça qui fournit l'eau. Et l'énergie, c'est pas seulement l'eau, hein. C'est l'énergie aussi pour le Grand Ouest, quoi, américain.
Et alors, c'est le seul fleuve au monde à ne plus jeter dans l'océan. Pourquoi ?
Alors ça, c'est assez surprenant. C'est le seul grand fleuve comme ça, qui est massif, mythique. Pourquoi ? C'est très simple. Donc en fait, le Colorado prend sa source dans les Rocheuses. Il s'écoule aux États-Unis, traverse les États-Unis. Il arrive à la frontière mexicaine. Et après, il y a une centaine de kilomètres et se jette dans la mer de Cortez, côté mexicain. Et depuis 10 ans à peu près, il n'y a plus d'eau qui passe au niveau de la frontière. Alors pourquoi ? Alors, première chose, c'est il pleut moins. Ça, c'est un fait.
Les changements climatiques,
voilà,
sans doute.
Voilà, ça, clairement. Mais ce n'est pas que ça. C'est que, en fait, nous, on a l'image du Colorado et de l'eau qui est consommée par les grandes villes, Las Vegas, Los Angeles.
C'est quand même de l'eau douce pour 30 millions de personnes aux États-Unis, au Mexique, le Colorado.
Oui, mais bon, là, ils n'ont plus trop accès. Et donc, côté américain, on a l'image de c'est Las Vegas, c'est les golfs qui vont pomper l'eau. Et au final, en regardant en détail, c'est pas du tout ça. Enfin, bien sûr qu'ils consomment, c'est un peu une aberration de consommer dans un désert comme ça. Mais par contre, au niveau des quantités d'eau, ça représente que 15%. Là, c'est les golfs, les habitations, enfin les gens qui consomment, les industries, c'est que 15% de l'eau du Colorado. Où va le reste ? S'il n'y a plus rien qui passe côté mexicain. En fait, c'est pour l'agriculture. 85% de cette eau est pour l'agriculture et la plus grande quantité, 70% de l'eau du Colorado, va dans le sud de la Californie par le All American Canal. C'est juste avant la frontière mexicaine. Et là, on pompe, on irrigue un désert, ça s'appelle l'Imperial Valley. Il y a 300 fermiers qui possèdent ces terres. Bon, il y a environ une dizaine de milliers de personnes qui travaillent là, mais c'est 300 familles qui détiennent 70% de l'eau du Colorado pour irriguer un désert. Ils vont faire pousser ils produisent des légumes et autres, mais aussi, surtout, de la luzerne. Ça coûte, c'est une des plantes qui demande le plus d'eau.
Et, pour quelle utilité ?
Pour nourrir les bêtes. Ouais. Donc, en fait, ils ont des élevages aussi. C'est énorme. J'ai découvert un élevage de 90 000 têtes.
90 000 têtes ?
Oui, 90 000 têtes en plein désert. Et ils sont, comme il fait tellement chaud, ils ont des styles d'auvent qu'ils ont installés et des sprinklers pour les arroser. Et au final, pour produire 200 grammes de viande, de steak, il faut 3550 litres d'eau. Et dans ces 3550 litres d'eau pour ce fameux steak, plus de 90% de cette eau est pour nourrir la luzerne.
Oui, donc là, on marche sur la tête quand même.
On marche sur la tête. Et surtout, donc, au final, ces histoires d'attribution d'eau à ces fermiers date de 1922. Et à l'époque, il y a eu beaucoup, beaucoup d'eau. Et c'est inscrit dans la Constitution. Donc au final, on s'est basé sur une mauvaise estimation d'eau, d'attribution, parce qu'on a donné trop d'eau. Et au final, eux, ils gardent leur quantité d'eau.
Oui, mais est-ce qu'il y a une conscience chez ces fermiers-là que vous avez peut-être rencontré, si vous y êtes allé, du fait qu'ils détournent un fleuve ?
Alors en fait, pas vraiment, parce que pour eux, c'est leur droit. C'est comme ça. Enfin, ils ont droit, c'est écrit dans la Constitution.
Oui, et puis leur activité économique est vraiment liée maintenant à cette situation.
Ah oui, complètement. On est dans un désert, donc ils ont besoin de cette eau. Sauf que, comme il y a moins d'eau qui arrive, bah, ils prennent tout ce qui reste. Et côté mexicain, il n'y a plus rien qui passe. Donc ça fait 10 ans que qu'on est à sec. L'année dernière, il y a eu Robert Redford qui a poussé un coup de gueule pour dire que ce n'est pas normal que ce fleuve mythique ne s'écoule plus dans l'océan. Et suite à ce coup de gueule, les autorités ont décidé d'ouvrir pendant 5 semaines le barrage. Ça s'appelle le barrage Morelos. Ils ont ouvert pendant 5 semaines, donc l'eau a coulé, mais pas suffisamment longtemps pour atteindre la mer. Donc en gros, je crois que l'eau est arrivée à 60 km. Et après, ils ont refermé les vannes. Et c'est fini, en fait. C'est un peu ridicule de faire 5 semaines et après refermer. Mais voilà.
Alors, comme vous le rappelez dans l'exposition, le Colorado a passé plus de 40 millions d'années quand même à creuser le Grand Canyon américain, dont on a tous un peu des images en tête. Et il aura suffi du seul 20e siècle, finalement, pour le mettre en péril.
Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est assez fou. Et en fait, lors du projet photo, j'ai été. Il y a une association de pilotes américains qui m'a aidé, qui travaille sur l'environnement. Et le pilote qui m'a accompagné, qui m'a permis de survoler la zone au Mexique, le delta, totalement asséché, il travaillait, maintenant il est retraité, il est venu de Tucson au Mexique et on a survolé la zone. Et en fait, il travaillait, quand il était plus jeune, sur la construction de barrages et surtout du projet du grand canal qui relie le Colorado à Phoenix et Tucson. C'est le grand projet. C'est l'autre grand projet à côté du All American Canal. Et en fait, il me disait, si j'avais su ce qu'on faisait, jamais j'aurais fait ça.
Eh oui, voilà. Maintenant, on voit bien que c'est bien compliqué de changer. En tout cas, si on veut en savoir plus, on peut aller voir cette belle exposition, le Colorado, ce fleuve qui n'atteint plus la mer. C'est au Pavillon de l'eau à Paris. Jusqu'à fin décembre. Merci Franck Vogel d'être passé dans C'est pas du vent. Vous nous tiendrez au courant de la suite de vos expéditions. Un livre est en projet, hein, oui. Publication à l'automne sur ce beau programme Fleuve Frontière. Donc on vous recevra peut-être à nouveau à l'occasion de la publication de ce livre. Merci à Vincent Biteau pour la réalisation de cette émission. Restez sur RFI, de toute façon vous ne serez pas mieux ailleurs. On se retrouve dans 3 minutes juste après le flash d'info pour découvrir ce lieu exceptionnel, le site hydrothermal de Dalol au nord de l'Éthiopie. À tout de suite. Ça va.